Je vote pour la science avec Isabelle Burgoyne.
Bonjour à vous. La pandémie a vu un phénomène s'étendre sur les réseaux sociaux et Internet, une épidémie de fausses nouvelles et de complots depuis le début de cette crise sanitaire. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, la nomme même « infodémie ». Pour affronter cette propagation de complots et donc de mauvaises informations autour de la santé, il y a les vérificateurs de faits, des médias, et l'agence Science Presse a son équipe de rédactrices hors pair sous la houlette d'Ève Baudin pour faire ça. Il y a aussi des scientifiques de plus en plus présents sur les réseaux sociaux en leur nom propre ou réunis dans des groupes. Nous avons rencontré au début de la saison les universitaires, ces experts qui vulgarisent la science des changements climatiques dans les pages du quotidien Le Soleil et sur Internet. Récemment, un collectif de scientifiques et de communicateurs scientifiques, la coalition La Science d'abord, a lancé une initiative rassembleuse pour passer à l'action pour contrer la mésinformation en santé. Les experts donc de hashtag La Science d'abord veulent donner des outils et des informations basées sur la science aux Canadiens pour combattre efficacement cette infodémie. Nous en parlons tout de suite, restez à l'écoute. Des scientifiques et des communicateurs scientifiques canadiens ont lancé une nouvelle initiative rassembleuse pour lutter contre l'épidémie des fausses nouvelles, la fameuse infodémie. Pour en parler, pour parler de la science d'abord, je suis en compagnie de Jonathan Jarry, communicateur scientifique au sein de l'Organisation pour la science et la société de l'Université McGill. Bonjour.
Bonjour.
La pandémie aura mis en avant une véritable épidémie de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux. Cela ressemble à quoi concrètement, Monsieur Jarry?
Ça ressemble à de la mésinformation, des rumeurs, des faussetés qui se promènent surtout sur les réseaux sociaux, des mythes, de l'anxiété qui est causée par la COVID-19, par les vaccins contre la COVID-19. Et donc, ça se propage un peu partout avec différents degrés de certitude, avec différents degrés de colère et d'anxiété qui sont associés à tout ça. Et ça crée un peu le fouillis, je crois, dans l'écosystème d'information qui est disponible en ligne. Donc, quand les gens recherchent de la bonne information sur la COVID-19, sur les vaccins contre la COVID-19, les traitements contre la COVID-19, tout ça, je pense que c'est facile de se sentir un peu embrouillé dans tout ça. Et même quand on ne cherche pas l'information, l'information vient nous rejoindre parce qu'on a des gens qu'on suit sur les réseaux sociaux qui partagent des trucs qui ne sont pas toujours véridiques et on voit des en-têtes passer, on voit des clips de vidéos passer et ça crée énormément de confusion.
Oui, c'est quelque chose qui existait déjà.
Tout à fait, tout à fait. La mésinformation existe depuis le début de la communication. Il y a toujours eu de la propagande et des rumeurs, tout ça. Par contre, ce qu'on observe présentement, c'est qu'avec la venue des réseaux sociaux, où on a souvent un partage d'informations qui est non modéré ou qui est peu modéré, où est-ce qu'il y a peu de règles en place pour encadrer ces discussions-là, bien, il y a un peu n'importe quoi qui est partagé. Et c'est facile de se bâtir des réputations, des comptes pour des gens qui veulent faire un peu un aspect contraire au consensus scientifique ou qui veulent partager des pseudo-sciences ou de la pseudo-médecine. Donc le phénomène qui existait déjà en société est, je crois, amplifié avec les réseaux sociaux. Et là, en plus, comme on est au cœur d'une pandémie qui crée énormément de peur et d'anxiété dans la population, je pense que ça ne fait qu'empirer le phénomène.
Oui, des exemples récents que vous avez pu lire sur Twitter, Facebook ou...
C'est sûr qu'au niveau des vaccins, il reste des mythes qui sont très, très, très communs et qui reviennent à chaque semaine. Par exemple, que les vaccins ARN ont été conçus trop rapidement ou que ces vaccins-là vont altérer notre ADN. On a vu différentes façons qui ont été formulées pour faire suivre cette mésinformation-là. Donc, ces craintes-là demeurent et sont quand même assez populaires sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est important quand on parle du développement des vaccins. Les gens ont souvent peur que ça a été développé trop vite. Est-ce qu'on a coupé les coins ronds? Mais je pense que c'est important de dire non, ça n'a pas été le cas. C'est vraiment une question on pourrait comparer ça à des colis accélérés. Donc, quand on accélère un colis, on ne s'attend pas à ce que le colis soit perdu en cours de route parce qu'on a été trop vite. C'est vraiment une question de priorisation. Donc, on priorise cet envoi-là. Et c'est ce qu'on a fait avec les vaccins. On a vraiment investi énormément d'argent, de temps, pour que la bureaucratie usuelle soit réduite le plus possible et pour qu'on perde le moins de temps possible. Et on a été aussi chanceux. Hein. Je pense que les chercheurs ont misé sur la protéine spike du virus comme étant une bonne cible pour les vaccins. Et ça a été un pari gagnant. Donc, ça a vraiment été des vaccins qui ont été priorisés, non pas pour lesquels on a coupé les coins ronds.
Oui, et beaucoup d'argent et beaucoup de recherches aussi, beaucoup de chercheurs aussi qui s'y ont attelés. Donc, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'opinions, de débats, de désinformations. Est-ce que les gens savent démêler le vrai du faux de ce qu'ils lisent?
Malheureusement, si on regarde des études qui ont été faites là-dessus, la réponse, elle est décevante. Je pense que y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à différencier entre un fait et une opinion. Et on voit beaucoup d'opinions qui sont partagées, qui ont des allures de faits, mais qui ne sont en fait que des opinions. Il y a beaucoup de journalisme d'opinion aussi, d'ailleurs. Et on voit aussi même des annonces qui maintenant prennent la forme d'éditoriaux ou de contenus journalistiques, donc qui sont un peu déguisés comme ça. Et il y a beaucoup de pseudo-sciences qui circulent, et malheureusement, je pense que la littératie scientifique et la littératie médiatique de la population pourraient être améliorées pour justement aider à avoir une meilleure pensée critique, une meilleure pensée analytique vis-à-vis des supposés faits qu'on voit sur Internet.
Donc, comment repérer cette mésinformation? À quoi ça ressemble concrètement?
Souvent, c'est associé à de la peur. On a vu beaucoup de théories de grands complots durant la COVID-19. Donc, pas juste une mésinformation simpliste, mais plutôt une mésinformation qui s'imbrique dans une grande théorie qui vise à rendre les gens un peu paranoïaques vis-à-vis des gouvernements, vis-à-vis des compagnies pharmaceutiques. On nous dit qu'on nous cache des trucs, on nous dit que la pandémie, elle a été planifiée par les gouvernements, que c'est un effort pour museler la population, etc., etc. Donc, je pense que quand on nous lance un langage comme ça, quand on parle de grandes théories du complot qui impliqueraient des dizaines de milliers de personnes, je pense que c'est important de prendre du recul et de reconnaître ce que c'est, et de se demander est-ce qu'il y a vraiment des bonnes preuves derrière ça. Et très souvent, il n'y en a pas, parce que des grands complots d'envergure mondiale, ce serait extrêmement difficile à réaliser sans que personne brise le silence. Donc, je pense que surtout durant la pandémie, ça a été un type de mésinformation qui est quand même assez populaire, malheureusement, mais quand même assez facile à voir et à réaliser, effectivement.
Oui. L'Organisation mondiale de la santé nomme donc infodémie ce phénomène qui se propage sur Internet. Ce recul de la science et des faits scientifiques en temps de pandémie est inquiétant, n'est-ce pas?
Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'il ne faut pas non plus généraliser et parler d'un véritable mouvement anti-science. Ce qui arrive souvent, c'est que certains groupes dans la société vont accepter la science dans plusieurs domaines, mais sur une question quelconque, là, on fait vraiment défi au consensus scientifique. On l'a vu par le passé vis-à-vis de la théorie de l'évolution, vis-à-vis la sûreté des OGM, vis-à-vis des vaccins aussi. Et c'est ce qu'on continue de voir présentement. Et comme je disais, on voit une alliance maintenant aussi avec cette mésinformation-là et les théories du complot. Donc, le mouvement anti-vaccin, par exemple, n'est jamais disparu, a toujours été là dès le début de la vaccination. Et ça monte, ça descend en amplitude au fil des années. Et c'était vraiment intéressant de voir parce qu'au début de la pandémie, il y a plusieurs scientifiques et moi-même qui se disaient, le mouvement anti-vaccin va probablement prendre beaucoup de recul durant la pandémie parce que les gens vont se dire, ah ben on a finalement, on voit là, pourquoi on a besoin d'avoir des vaccins. Et c'est pas ça qu'on a vu. On a vu tout le contraire, un mouvement anti-vaccin qui a vraiment pris la parole et a lancé tout plein de mésinformations au niveau de la COVID-19 et de sa sévérité, mais aussi des vaccins contre la COVID-19 et de leur sûreté. Donc voilà.
Oui, quelles sont la place des lobbies peut-être et des influenceurs dans cette propagation?
Ils ont énormément d'influence là-dessus. Il y a une, en fait, une enquête qui a été publiée en 2020, je me souviens plus de l'endroit exact, sur en fait les plus grands influenceurs de l'infodémie sur la COVID-19. Et on a vu des très gros comptes sur Facebook, par exemple, autant en France qu'aux États-Unis, qui avaient un impact quand même assez démesuré au niveau du partage de cette mésinformation-là vis-à-vis de la COVID-19. Donc, effectivement, on a des influenceurs sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, des gens sur YouTube aussi, qui ont énormément d'influence parce qu'ils sont suivis par beaucoup, beaucoup de personnes. Et quand ces gens-là commencent à lancer des rumeurs, de la mésinformation, des théories du complot, tout ça, ça va rejoindre énormément de gens qui eux-mêmes vont partager ces nouvelles-là dans leur propre cercle sur les réseaux sociaux. Donc, ça va gagner beaucoup, beaucoup d'amplitude.
Oui, vous faites partie de la coalition donc d'experts contre la désinformation ou la mésinformation, la science d'abord. Pourquoi c'est important de se rassembler pour mettre en avant la science finalement sur les réseaux sociaux?
Effectivement, la science d'abord, parce que tous les gens en fait qui font partie de cette coalition nationale-là de scientifiques, de communicateurs scientifiques, de médecins, de chercheurs, on faisait tous de la communication scientifique de notre côté, mais évidemment, comme on n'était pas reliés ensemble, comme on n'avait pas de mots-clés en commun, on n'avait pas de campagne auquel on faisait partie, on allait rejoindre les gens qui nous suivaient déjà, mais on travaillait un peu en vase clos. Et donc, l'idée de la coalition est vraiment de nous allier les uns aux autres pour qu'on puisse rejoindre encore plus de gens et mettre de l'avant les meilleures façons de rejoindre les gens, les meilleures explications vis-à-vis de la mésinformation qu'on a trouvées, les meilleures données scientifiques qu'on a sur la COVID-19 et sur les vaccins. Et d'agir un peu comme un point rassembleur pour les gens qui cherchent à avoir de la bonne information au Canada sur la COVID-19 et sur les vaccins en particulier. Pour l'instant, on espère que cette coalition-là persiste après la pandémie pour continuer vraiment à agir comme une espèce de parapluie, si on veut, pour rassembler un peu tous les communicateurs scientifiques au Canada qui veulent véhiculer de la bonne information sur des sujets qui intéressent le public.
Oui, qui c'est qui a eu l'idée de ce regroupement au départ? Comment c'est parti au départ?
Donc, c'est né de discussions entre le sénateur Stan Kutcher de la Nouvelle-Écosse et le professeur Timothy Caulfield, que je connais personnellement de l'Université de l'Alberta. Timothy Caulfield est un des communicateurs scientifiques les plus populaires, je dirais, au Canada, du côté anglophone. Donc, il a déjà animé une émission de télévision, il a écrit plusieurs livres sur ce sujet-là. Et donc, ces gens-là, ces deux-là reconnaissaient vraiment le problème de cette infodémie-là et voulaient faire quelque chose de concret. Et donc, c'est né de ces discussions-là. Ils se sont associés par après à l'Association canadienne des centres de sciences, à l'organisme COVID-19 Ressources Canada et à l'Institut de droit de la santé de l'Université de l'Alberta pour justement créer cette initiative-là. Et donc, j'en fais partie. Plusieurs autres au Canada, autant du côté francophone que du côté anglophone, en font partie. Et donc, voilà. Et on a lancé le tout le 25 février dernier.
Oui, vous êtes combien au juste et vous espérez regrouper combien de membres?
Donc, la façon que ça fonctionne, je n'ai pas le chiffre exact avec moi, mais on est au-dessus d'une vingtaine, trentaine qui font partie soit du comité organisateur ou qui font partie un peu des conseillers de cette initiative-là. On a un site web qui est Science Up First, UPFIRST.com. Il y a une version française lorsqu'on accède au site. Et donc, les gens peuvent se joindre à ce site. statistiques là, j'ai pas les chiffres exacts pour les gens qui se sont joints à nous par le site. Sur les réseaux sociaux, donc on a au-dessus de 5 000 personnes qui nous suivent présentement sur Facebook, on en a aussi 5 000 sur Instagram, on a 12 600 personnes qui nous suivent sur Twitter. Et donc comme ça fait 2 semaines que notre initiative est lancée et donc on continue de croître et on espère d'avoir encore plus de gens qui vont se joindre à nous.
Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. On se demande souvent sur les réseaux sociaux où sont les experts et comment départager les bons experts des autres, évidemment.
Effectivement, c'est une question qui a pris beaucoup d'importance durant la pandémie parce qu'on a vu malheureusement des gens qui ont des qualifications assez impressionnantes, mais qui disent le contraire de ce qu'on pourrait appeler un consensus scientifique émergent sur le taux de mortalité de la COVID-19, par exemple, sur les mesures d'hygiène, les mesures sanitaires là, pour comme les lockdowns et l'isolation et tout ça. Et justement, à cause des réseaux sociaux, mais c'est rendu tellement facile pour un peu n'importe qui de prendre la parole, de faire des vidéos, de lancer des webinaires, tout ça. Et malheureusement, ben ça crée un peu une espèce de fouillis parce que là, on a des médecins qui disent une chose, on a d'autres médecins qui disent le contraire. Et donc, c'est important de regarder est-ce que les gens qui disent le contraire, est-ce qu'ils ont vraiment une formation dans la spécialité sur laquelle ils vont discuter et aussi de regarder un peu où se trouve le consensus émergent. On le voit à travers les agences de santé publique, on le voit dans les universités et malheureusement il y aura toujours des gens qui vont faire fi de ce consensus-là et qui vont faire ce qu'on appelle du cherry picking pour aller chercher une donnée ici, une donnée là, qui font leur affaire sans regarder le reste, vraiment l'ensemble des preuves qu'on a. Donc effectivement c'est devenu plus compliqué de voir où se trouve exactement l'expertise. Et c'est pour ça que notre coalition, on espère, va agir comme un point rassembleur pour les gens qui cherchent exactement ça.
Oui. Est-ce que vous constatez aussi une crise de confiance envers la science et peut-être aussi une méfiance envers les médias après? Mais est-ce qu'il y a une crise de confiance envers...
C'est une question compliquée. Je pense que les dernières données qu'on a durant la pandémie au niveau de la confiance vis-à-vis des scientifiques, elles restent hautes. Et même avant la pandémie, on entendait souvent ce refrain-là que, bon, on est dans une ère anti-science, les gens ne font pas confiance aux scientifiques, et ce n'était pas vrai. C'est juste que, comme je disais, il y a certains domaines où là, on a vraiment une différence entre l'opinion publique et le consensus scientifique. Pour ce qui est des médias, oui, j'ai vu des chiffres qui disent que la confiance envers les médias est quand même assez basse, mais ça varie d'un pays à l'autre. Donc, faut faire attention. Je pense que, règle générale, les gens ont une confiance vis-à-vis des scientifiques. Ce que ça prend, c'est encore une fois une transparence, ça prend de l'honnêteté. Et de prendre les questions du public au sérieux, de vraiment écouter les gens qui ont des anxiétés. Ce que je vois souvent, par exemple, c'est qu'on a des gens qui ont des questions vis-à-vis des vaccins contre la COVID-19, mais qui ne sont pas anti-vaccins. Ils ont une hésitation, spécifiquement parce que ces vaccins-là, bon, on parle souvent de nouvelles technologies, comme les vaccins à ARN. On parle souvent que les vaccins ont été développés rapidement, comme je disais plus tôt. Donc, c'est important de ne pas démoniser, de ne pas accuser les gens qui posent ces questions-là d'être anti-vaccins, mais de bien écouter les questions, les incertitudes qu'ils ont et de répondre à ces questions-là du mieux qu'on peut.
Oui. Quels sont les impacts aussi peut-être de cette désinformation sur la démocratie? On a vu ce qui s'est passé chez nos voisins. Ça prend aussi une volonté politique pour combattre les messages de division sur les questions de la lutte à la COVID.
Oui, effectivement. C'est pas une question sur laquelle je peux dire grand-chose étant donné que je suis pas un spécialiste de la démocratie. Mais effectivement, la mésinformation et la désinformation et la propagande... Évidemment, ça a un effet néfaste sur la confiance en général, la confiance que les gens ont envers leurs institutions. Et donc, oui, effectivement, ça peut très facilement déborder du vase scientifique pour aller s'incruster du côté de la politique aussi.
Oui. Est-ce qu'il n'y a pas également une responsabilité des grandes plateformes comme Facebook ou Google, les GAFA, là, qui elles ont annoncé certaines initiatives pour lutter contre la désinformation, comme la signature d'un code de bonne pratique ou le programme de vérification de fausses nouvelles de Facebook, mais ça en prendrait plus. Que devraient-elles faire concrètement ces plateformes?
Tout à fait, ça a été très, très décevant pour moi de voir des tentatives très, très tièdes de la part des plateformes, des réseaux sociaux, parce qu'évidemment, pour eux, en bout de ligne, ce qu'ils veulent, c'est avoir le plus grand nombre d'utilisateurs possible qui passent le plus grand nombre de temps sur leur plateforme. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça prendrait exactement. Il y a des gens qui ont argumenté que, par exemple, les réseaux sociaux sont la nouvelle place publique. Et donc, il devrait y avoir une espèce de nationalisation de prise de pouvoir par le gouvernement de ces plateformes-là parce que elles ne devraient pas être entre les mains de compagnies privées. Je pense qu'on en est vraiment, on est au début de cette ère-là de communication globale via l'Internet et donc on est en train de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc, il y a un aspect de réglementation qui doit certainement être évalué. Maintenant, pendant que ça se passe ou que ça ne se passe pas, je pense que ça reste aux lecteurs et aux usagers d'être avertis. Et donc, comme je dis souvent, de ralentir sur les réseaux sociaux. Les plateformes comme Facebook, comme Twitter, elles ont été bâties pour vraiment aller chercher une réaction immédiate vis-à-vis du contenu qu'on voit. Donc, on nous force un peu, on nous encourage en tout cas à réagir rapidement, à cliquer sur le bouton j'aime ou j'aime pas, à commenter, à partager. Et quand on prend pas la peine de lire le texte complet, mais on ne fait que voir l'entête, par exemple, qui peut souvent être un peu décontextualisée, un peu accrocheuse. Ben on risque de faciliter la propagation de la mésinformation. Donc je pense que c'est un peu à nous aussi, c'est pas juste aux plateformes, là, bien qu'effectivement, je pense que les plateformes ont à réviser un peu leur position vis-à-vis de ça, mais c'est un peu à nous aussi de ne pas se faire prendre au jeu et d'apprendre à ralentir, à penser un peu plus lentement. Et quand on n'est pas sûr, ben à ne pas partager. Je pense que il y a personne qui va mourir si on ne partage pas un lien qu'on voit sur Facebook. Donc, si on n'est pas sûr de la source, si on n'est pas sûr de la validité de l'information qu'on voit sur Facebook, ça vaut la peine de ne pas partager avant qu'on ait eu le temps de faire nos recherches et de vraiment s'assurer que c'est de la bonne information.
C'est ça, c'est le message qui passe souvent, c'est de faire ses propres recherches. Mais si on a un peu de mal à distinguer le vrai du faux, on peut faire de la recherche complètement de manière erronée aussi. Comment on s'en sort?
Oui, tout à fait. C'est un problème qu'on voit justement avec si on a un manque de littératie scientifique et un manque de pensée critique, c'est facile de, entre guillemets, faire nos propres recherches et de tomber dans le panneau du raisonnement motivé, où est-ce que là, on part d'une conclusion qu'on aime et on voit de l'information qui renforce nos croyances et on met de côté l'information qui va en sens contraire. Et donc, la solution à tout ça, c'est une solution qui n'est pas simple. Et c'est vraiment d'en apprendre plus justement sur la pensée critique. Ce serait peut-être d'enseigner la pensée critique dans les écoles. Je pense que c'est une boîte d'outils qui est tellement importante et pour laquelle on passe très peu de temps pour examiner, par exemple, nos biais cognitifs. Donc, les manières à laquelle notre cerveau dérape, notre cerveau nous ment parfois, on prend des décisions un peu vite, un peu intuitives. On a des erreurs de logique, par exemple, comme l'appel à la nature, qui est très, très commun dans le monde des pseudosciences et de la médecine alternative. Donc, on en connaît beaucoup sur ces sujets-là, mais malheureusement, on ne les explore pas assez. Et ça serait bien qu'on ait justement des initiatives pour enseigner aux gens ces méthodes-là. Pour faire de la population, dans le fond, des lecteurs avertis, surtout sur les réseaux sociaux.
Oui, c'est un peu ce que vous faites à McGill, à l'Organisation pour la science et la société.
Tout à fait, tout à fait. Un travail que je fais en majorité en anglais, mais effectivement, j'essaie le plus possible d'enseigner, d'éduquer les gens à la pensée critique et d'appliquer ça à ce qu'on voit en recherche. On a des bonnes études qui sortent, on a des mauvaises études, on a de la pseudo-science aussi. Donc, comment faire le tri dans tout ça? Bien, il y a des leçons à apprendre, il y a des trucs qu'on peut prendre de ça pour aller les appliquer ailleurs. Donc, c'est effectivement le travail que je fais à l'Organisation pour la science et la société de l'Université McGill.
Pour terminer, les scientifiques n'aiment généralement pas plonger dans l'arène de la polémique et des débats d'opinion. Comment les pousser à participer un peu plus au débat?
Ah oui, effectivement, parce que souvent, il y a pas beaucoup d'incitatifs au niveau académique pour faire ça. C'est pas quelque chose que les universités souvent vont encourager dans le dossier des chercheurs, par exemple. C'est pas quelque chose qui va être priorisé. Mais je pense que c'est très important parce que on voit que les mauvaises croyances et la mésinformation vis-à-vis de la science, ça a des conséquences véritables dans la vie de tous les jours. Les gens prennent des décisions vis-à-vis de est-ce que je me fais vacciner, je ne me fais pas vacciner, est-ce que je porte un masque, je ne porte pas un masque, est-ce que je vais manger de la nourriture qui a été génétiquement modifiée ou non. Ça va avoir un impact sur les partis politiques pour lesquels on vote, dépendamment de la rhétorique scientifique ou pseudo-scientifique que ces partis-là vont nous lancer. Donc, ces trucs-là ont vraiment des conséquences réelles sur la décision que les gens prennent. On le voit beaucoup en médecine alternative, par exemple. Si quelqu'un a le cancer et décide d'abandonner ses traitements médicaux pour aller faire du Reiki ou de l'acupuncture, tout ça, ce sont de vraies conséquences. Donc, c'est important que les scientifiques prennent un intérêt au moins. Effectivement, il faut quand même s'assurer de faire de la bonne communication. Parfois, de ne pas communiquer peut-être mieux que de
De
mal
mal
communiquer.
communiquer. Ouais.
Mais de plus en plus, je vois des séminaires et des séminaires, des conférences qui sont données sur justement le sujet de la communication scientifique. Donc, je vois souvent une plus jeune génération de chercheurs s'intéresser beaucoup à ça et participer sur les réseaux sociaux pour faire de la communication scientifique. Donc, en autant que c'est bien fait, que c'est fait avec empathie et avec transparence, je pense que c'est bien.
Entendu. Ben, merci beaucoup. On était en compagnie de Jonathan Jarry, communicateur scientifique au sein de l'Organisation pour la science et la société de l'Université de McGill et membre de La Science d'abord. On va mettre le lien et les adresses du site internet, mais peut-être aussi du hashtag sur Twitter, là.
Oui, c'est tout simplement le mot-clé, c'est la science d'abord en un mot sans apostrophe. Il existe aussi en anglais, donc c'est science at first en anglais.
Entendu. Ben, merci beaucoup. Bonne journée.
Merci. Au revoir.
Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin, à la recherche, la réalisation et au micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. Écoutez-nous en rediffusion ou en podcast sur le site de l'agence Science Presse. J'espère que vous avez aimé cette émission. Si vous l'avez aimée, comme toujours, partagez-la. En attendant, bonne semaine. Portez-vous bien.
Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance.